1, 2, 1, 2, 1, 2.
Ça marche, c'est formidable. Donc, d'abord, est-ce que je peux te demander de te présenter?
Alors, je m'appelle Gauthier Ragonnet, je suis animateur donc à l'Atelier populaire d'urbanisme du Vieux-Lille, une petite association qui a été créée il y a une trentaine d'années donc dans le Vieux-Lille.
Alors, qui l'a créé? Comment ça s'est créé? C'est quoi l'idée de départ?
Alors, l'idée de départ, c'est plus qu'une idée, c'est une action, c'est-à-dire ce sont des habitants du Vieux-Lille qui se sont regroupés autour d'un même thème qui est la défense de l'habitat. L'histoire part d'une place dans le Vieux-Lille qui devait être rasée parce que les politiques locales avaient décidé de la raser. Et plusieurs habitants de cette place s'étaient mobilisés pour sauvegarder un arbre. Alors, c'est anecdotique, hein, anecdotique, mais ça traduit assez bien le combat qu'on mène ici. C'est-à-dire que voilà, c'est un combat pour le cadre de vie, pour pouvoir choisir où est-ce qu'on peut vivre, comment on doit vivre. Et voilà, être libre de faire ses propres choix. Ensuite, voilà, l'action s'est organisée sur la défense, en l'occurrence, d'une vieille dame qui habitait dans le quartier du Vieux-Lille, quartier qui a fortement changé depuis 30 ans, hein. On était dans un quartier populaire, extrêmement populaire, avec des gens assez précarisés, des populations diverses et variées, et un quartier qui aujourd'hui est devenu un quartier hyper bourgeois, avec toute la population bobo de Lille qui vient vivre là et toute la population bourgeoise qui vient vivre là. Donc ces transformations ne se sont pas faites en un an, et au début, il y a 30 ans, quand ça a commencé, des gros investisseurs immobiliers, entre autres parisiens, sont arrivés dans le quartier du Vieux-Lille pour racheter des immeubles qui étaient complètement délabrés et les retaper pour en faire, voilà, pour faire du fric avec, hein, clairement. Et donc au détriment des petites gens qui habitaient dans ces logements pas chers. Et donc le but de ces promoteurs était de faire partir ces gens, cette population précaire, précarisée du quartier, pour laisser place aux bourgeois et faire du fric. Voilà, ce qui est un peu l'histoire de l'urbanisation en général dans toutes les grandes villes, hein.
Alors, comment ça s'organisait en fait au début l'APU du Vieux-Lille j'imagine pas mal de réunions, puis du coup un travail de réflexion commune sur le cadre de vie et puis la défense des locataires ou.
Ouais, plus que des locataires, des habitants en général, hein. Nous, on dit qu'on fait effectivement pour simplifier la défense des locataires, mais pas plus tard que cet après-midi, j'ai reçu une propriétaire occupante. On ne défend pas les propriétaires bailleurs, c'est une question de principe. Les propriétaires bailleurs sont un peu les personnes qui alimentent le marché du logement et donc la spéculation dans le logement. Donc on ne va pas défendre ces gens-là vu qu'on se bat contre ça. Effectivement, comment ça se formait au début, c'était voilà, des habitants du quartier qui se connaissaient tous. Puis, comme je disais, on était dans un quartier populaire avec des endroits de rencontre, de proximité. Et donc voilà, le bouche à oreille a fait que les habitants sont regroupés pour défendre cette vieille dame, ensuite pour défendre ce vieux monsieur, ensuite pour défendre les intérêts des petites gens qui étaient un peu tout seuls et un peu désarmés face aux gros bulldozers des spéculateurs immobiliers qui arrivaient pour tout casser, dégager tout le monde, faire du logement cher et puis voilà, faire du fric avec tout ça. L'organisation, ça a été ça dans les premières années. Et puis au bout de quelques années, l'association a pris un peu d'ampleur, donc il y a eu un premier salarié. L'histoire a fait qu'il y a eu des périodes avec plus de salariés qu'avec moins de salariés. Ce qu'il faut retenir surtout dans cette aventure, qui est l'aventure de l'APU du Vieux-Lille, c'est que c'est une aventure de citoyens, d'habitants, de militants. Même si aujourd'hui il y a des salariés qui ont une place importante dans l'association, parce que c'est eux qui sont toujours là, donc ils sont un peu les référents de l'action, mais c'est avant tout une action d'habitants, et voilà, je le redis, une action de militants, quoi.
Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant? Est-ce que vous aidez encore les vieilles dames délogées du Vieux-Lille? Comment ça se passe aujourd'hui?
Alors les temps n'ont pas autant changé que ça, hein. C'est-à-dire que le Vieux-Lille est un quartier bourgeois, mais il reste des poches d'habitat très précaires et qui sont en proie justement toujours ces spéculateurs, toujours les mêmes, hein, qui viennent acheter ces logements délabrés, des prix ridicules, qui font tout pour dégager les gens à l'intérieur, pour pouvoir tout refaire, et puis en faire du logement très cher à destination des étudiants et des personnes qui peuvent mettre de l'argent dans le quartier. Donc notre travail, en partie, est toujours celui-là. Mais il s'est aussi orienté sur, comme on le disait tout à l'heure, la défense des locataires plus précisant, qui peut être effectivement l'accès aux droits, qui peut être également la défense dans le cadre d'une procédure d'expulsion, la défense des droits dans le cadre d'une maison insalubre ou d'un appartement insalubre. Voilà, c'est un peu les trois gros axes de notre travail. C'est, quand je dis les trois gros axes de notre travail, c'est les trois gros axes techniques, c'est-à-dire information sur le droit, insalubrité et dette de loyer, expulsion. Il ne faut pas oublier un autre axe du travail qui est un peu moins technique, mais plus politique, c'est le militantisme et la revendication, la revendication de demander des logements, de la construction de logements massives, demander à ce qu'on arrête de faire du logement un marché comme un autre, que ça sorte de cette économie libérale au maximum et qu'on reconnaisse bien ça comme un droit fondamental et pas comme un bien de marchandise quelconque. Voilà.
Ok. Alors, tu parlais de réflexion sur le cadre de vie. Bon, il y a certains ateliers populaires d'urbanisme dont c'était la principale action, de faire réfléchir les gens sur ça. Vous, est-ce que ça a été développé ou est-ce que vous avez un petit peu perdu de vue au fil des années ? Comment tu vois ça ?
Disons que effectivement, au fil des années, la demande qui sont arrivées, c'est exactement sur ces thèmes de l'information sur le droit, défense, expulsion, insalubrité. Le cadre de vie, on le garde toujours en tête. Mais effectivement, il y a quelques années, on était un peu plus là-dessus. On s'est battu, par exemple. On est ici dans des locaux qui appartiennent à la mairie, qui sont une école. Une ancienne école qui a perdu sa fonction d'école lorsque Pierre Mauroy, à l'époque où il était maire de la ville de Lille, avait décidé de tracer une autoroute dans le Vieux-Lille. Ça s'appelait la traversée de la Treille. Donc on est en plein dedans. Donc il y a plein d'immeubles qui ont été réquisitionnés un peu partout dans le Vieux-Lille. Et grâce à l'action de l'APU et des bénévoles de l'APU et des habitants qui se sont ralliés à l'action de l'APU, ce projet n'a pas eu lieu, qui aurait été un projet qui aurait eu pour objectif. C'était un gros délire, quoi. C'était complètement un délire de faire ça ici. On est dans un quartier classé, à côté de la Treille, même si on peut en penser ce qu'on en veut de cette cathédrale. Voilà, il y a un patrimoine aussi ici dans ce quartier, et tout allait s'effondrer là-dessus. C'est le genre d'action sur lesquelles on peut intervenir. Il y a récemment un architecte qui est venu nous solliciter sur la place au Bleuet, qui est juste derrière, une petite place derrière l'APU, en proposant, en nous expliquant voilà, par le passé, il y avait ça sur cette place, et lui voudrait un peu revenir là-dessus, il voulait qu'on participe en tant qu'association d'habitants. Voilà, le cadre de vie reste quelque chose qu'on garde à l'esprit, mais effectivement, on peut dire que notre action s'est un peu éloignée de tout ça, c'est un peu éloignée de l'aspect un peu urbaniste de l'action de l'APU pour venir plus sur un travail technique sur tout ce qui est effectivement éviter l'expulsion de quelqu'un, faire en sorte que quelqu'un qui vit dans un logement insalubre puisse accéder à un logement décent, obliger un propriétaire à faire des travaux ou informer sur le droit.
Des choses plus urgentes en fait selon toi, c'est ça ?
Pas forcément des choses plus urgentes, mais si, des choses urgentes, effectivement, c'est des choses très urgentes. Je ne suis pas en train de dire que le travail à faire sur le cadre de vie n'est pas important. Au contraire, on voit tous les jours que quelqu'un qui habite dans le Vieux-Lille, aujourd'hui, on va lui proposer un logement social. Il attend depuis 8 ou 9 ans un logement social. On va lui proposer un logement social à Tourcoing ou à Roubaix ou à Santes ou n'importe où sur la communauté urbaine. Il va refuser parce que l'endroit où il vit, son quartier, c'est le Vieux-Lille, c'est là où il a ses habitudes. Et donc ça, on ne l'oublie pas, on le garde à l'esprit, c'est très important et ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais par contre, ce que je dis, c'est qu'effectivement, les situations urgentes, c'est-à-dire des situations de gens qui peuvent se retrouver à la rue du lendemain ou des situations qui vivent dans un logement qui est dangereux pour leurs enfants parce qu'il y a du plomb ou bien parce que le plafond menace de s'effondrer ou bien parce qu'il y a des champignons qui poussent sur les murs, ce sont des situations... non seulement qui sont plus faciles à résoudre parce qu'il existe des dispositifs à mettre en place pour ce genre comment dire, de problèmes, dispositifs que nous connaissons mais que tout le monde ne connaît pas. Quand je dis tout le monde, c'est les assistantes sociales ne connaissent pas ces dispositifs, les travailleurs sociaux en général ne connaissent pas ces dispositifs. Donc nous travaillons là-dedans pour toujours à l'esprit donner accès aux droits aux locataires. Pour qu'ils reprennent possession de leurs droits. Et notre travail ne consiste pas à faire le travail pour les locataires, mais bien faire en sorte qu'on informe les gens, on leur dit, on leur explique ce qu'ils peuvent faire, on leur explique quels sont leurs droits, et après, ils décident de faire ou non. Nous, on ne fera pas à la place des gens, et c'est eux qui font. Voilà, un peu... pour répondre à ta question, effectivement, peut-être travailler sur les situations vraiment très urgentes en priorité, oui.
Pour ce travail d'aide juridique, vous avez une certaine reconnaissance des institutions publiques. Comment ça se passe? Des aides de la mairie, de différentes collectivités, comment ça se passe?
Bien, on est une petite association qui est financée par quatre financeurs principaux qui sont mairie, communauté urbaine, conseil général, conseil régional, pour différentes actions, c'est-à-dire que chaque collectivité, que ce soit la communauté urbaine, où la mairie ont une compétence sur tout ce qui est logement indigne, logement indécent. Le travail qu'on fait est reconnu, le travail qu'on fait est également... ils reconnaissent clairement que c'est un travail qu'ils n'arriveront pas à faire parce qu'on a un travail de proximité, on est en quartier, on a la chance de pouvoir aller chez les gens facilement, de pouvoir les accueillir dans un contexte différent... d'un bureau chez un travailleur social quelconque. Donc on a un travail qui est reconnu pour tout ça. Ensuite, il y a d'autres financeurs sur, par exemple, le Conseil général ou la région qui vont nous financer sur une action de formation. On est une association d'éducation populaire. On est une association où tous les membres, qu'ils soient bénévoles ou salariés, n'ont pas une formation juridique, de juriste ou quoi que ce soit, mais sont des gens qui sont arrivés à cette association par esprit militant, dans l'idée de réduire les inégalités, les injustices sociales qui naissent du logement, et qui apprennent sur le terrain. L'idée de l'association, c'est ça, c'est apprendre sur le terrain, c'est transmettre aussi aux gens qui viennent nous solliciter le peu de savoir qu'on peut avoir. Voilà, c'est une association d'éducation populaire. Et j'ai perdu le fil de ma pensée et de la question.
Alors, c'est vrai que pour quelqu'un qui est de l'extérieur comme moi, qui arrive dans le Vieux-Lille, qui voit toutes les boutiques chics, bon, ici, juste à côté de la PU, il y a un spa. Ouais. On se dit, ah bon, Vieux-Lille, déjà, bon, s'imaginer que ça a pu être un quartier populaire, c'est pas toujours facile. Mais en plus, se dire que y a encore, tu parlais de poches populaires dans ce quartier, c'est difficile à imaginer. Alors peut-être, je sais pas si tu peux nous donner une idée, peut-être nous dire des noms de rues ou nous expliquer un petit peu la situation à Lille, dans le Vieux-Lille, de ces quartiers, de ces poches dont tu parles.
Eh bien, il y a dans le Vieux-Lille effectivement, même dans les rues les plus commerçantes et les plus huppés, encore des logements complètement, je pèse mes mots, mais complètement pourris et réellement inhabitables. Il suffit de lever la tête. Hein. On va passer devant la boutique Louis Vuitton. Souvent, on regarde la vitrine, même si moi, ça ne m'intéresse pas, mais on peut regarder la vitrine. Il suffit de lever la tête, on regarde les deux étages au-dessus, ils sont pourris. Et la réalité, c'est que ces étages, de temps en temps, sont occupés. Donc effectivement, il y a encore des couches de pauvreté et des poches de pauvreté dans le Vieux-Lille. Elles sont Voilà, quand je donne cet exemple, c'est pas enfin la réalité, c'est qu'elles sont pas concentrées dans ces zones commerciales ou quoi que ce soit. Il y a des coins dans le Vieux-Lille, le quartier du Vieux-Lille, et doit être le deuxième plus grand quartier de Lille. Voilà, il y a des coins du Vieux-Lille où, je pense tout au bout de la rue de Saint-André, dans le prolongement de la rue de la Monnaie. Quand on prend la rue de la Monnaie, on prend la rue de Saint-André jusqu'au bout. Il y a des coins hyper pourris. Demain, là aujourd'hui nous sommes le 14 octobre, demain, le vendredi 15 octobre, après-midi, il y a un propriétaire du Vieux-Lille qui passe en correctionnel au tribunal d'instance parce qu'il a loué donc à des vieux monsieur d'une soixantaine d'années des logements. Je ne peux pas expliquer, il faut le voir pour le croire, hein, mais voilà, des logements sans eau, sans électricité, sans salle de bain, avec un WC commun pour 11 logements. Ce monsieur, le jour où il a voulu revendre le logement, il a tout fait pour mettre dehors ses locataires. Voilà, les agissements ont été, on casse les escaliers, on casse les portes, on casse les murs, on donne comment dire, un petit dessous de table à des jeunes du quartier pour qu'ils viennent faire peur aux petits vieux. Enfin, ça existe encore dans le Vieux-Lille. Voilà, ça c'est dans le Vieux-Lille. Maintenant, on est l'APU du Vieux-Lille, mais on travaille aussi sur d'autres quartiers de Lille et même sur la métropole entière. Depuis quelques années maintenant, on travaille sur toute la métropole. Et ces phénomènes qui se sont passés dans le Vieux-Lille il y a 30 ans, qui sont maintenant, qui arrivent un peu au bout, étant donné que, voilà, comme je disais, on n'a plus que des poches de classe populaire, hein. C'est surtout très bourgeois le quartier du Vieux-Lille aujourd'hui. Ça se passe sur d'autres quartiers. Sur Oisem, c'est très avancé. Sur le quartier de Moulins, ça en passe de rattraper le quartier de Oisem. Sur le quartier de Fives, ça va être pareil. Toutes ces mutations dans la ville ont pour effet l'éloignement des classes populaires et sont faites au détriment des classes populaires. Des gens qui ont des petites gens, quoi, des gens qui ont pas beaucoup d'argent. Et voilà, on fait un quartier qui va devenir attrayant, qui va devenir. Ouais, voilà, qui va être joli à voir, qui va être agréable pour se balader. Et donc les classes un peu plus aisées et les classes bourgeoises vont venir s'installer dans ces quartiers au détriment des classes populaires. Donc, même si le travail qui était à la base à faire dans le Vieux-Lille reste à faire dans le Vieux-Lille, parce que comme je viens de le dire, il y a du travail encore dans le Vieux-Lille, c'est vrai qu'on a aussi on a encore du travail en vue dans d'autres quartiers, ça c'est évident, hein.
Justement, tu parlais des autres quartiers. Il y a des APU dans d'autres quartiers. Il y a une APU à Oisem, une à Moulins, il me semble. Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce qu'ils font la même chose? Enfin, comment ça se passe?
Alors historiquement, il y a eu une première APU qui est très connue pour l'expérience de cette APU, qui est l'APU de l'Almagar à Roubaix, une APU qui n'existe plus aujourd'hui, hein, qui a été transformée en comité de quartier et qui a perdu un peu de son sens, c'est-à-dire populaire et d'éducation populaire, et qui n'existe plus aujourd'hui juridiquement. La deuxième APU à avoir été créée, et sur le modèle de l'APU de l'Almagar, c'était l'APU du Vieux-Lille, donc en 79. Je vais essayer de ne pas dire de bêtises, je crois que c'était dans les années 90, un groupe de militants de l'APU Vieux-Lille habitait le quartier de Moulins, et avec l'impulsion de l'APU Vieux-Lille, notamment en partageant un peu les fonds de l'APU Vieux-Lille, l'APU Moulin est né. Mais il fallait que ce soit quand même deux associations bien différentes. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes statuts, mais on travaille dans le même sens, c'est-à-dire toujours contre la marchandisation du logement, pour l'accès au logement pour tous, pour l'accès au logement décent pour tous, à des prix abordables. Même si on n'a pas exactement les mêmes moyens d'action, on se retrouve sur les mêmes revendications. Et donc, avec l'APU Oisem qui a été créée, pareil, de la volonté de l'APU Vieux-Lille et de l'APU Moulins, et de la volonté des habitants de Oisem de se regrouper pour créer une association sur Oisem. Donc ça, c'était un peu plus tard que l'APU Moulins, je ne sais plus les dates exactement. Mais donc avec les trois associations, donc avec les deux APU Moulins et Oisem, on organise tous les ans une manifestation, souvent en début, en fin de trêve hivernale, pour dénoncer les expulsions en général, hein. On organise ensemble des formations, on va organiser, voilà, on travaille ensemble. De toute façon, il ne faut pas se leurrer, hein, on a conscience aussi de ça, c'est qu'ensemble, on est plus fort. Après, on a au quotidien, dans notre travail au quotidien, certainement des moyens de fonctionnement différents. Et c'est aussi ça qui fait voilà, qu'on est complémentaires, quoi. Mais voilà, on travaille quand même ensemble et c'est essentiel.
Okay. Bah, je sais pas s'il y avait autre chose que tu voulais ajouter. Non, bon, peut-être une question plus globale. Bon, on peut se dire, enfin, je sais pas si ça fait 20 ans. Ouais, je sais pas si ça fait 20 ans que tu travailles dans cette association. Non, mais comment ça évolue en fait? On peut se dire bon, quand même, il y a plus de logements. Certainement des meilleures conditions d'habitation qu'il y a 20 ans ou pas?
Disons, meilleures conditions d'habitation qu'il y a 20 ans, oh, je ne serais pas rapide à répondre à cette question. Nous, la réalité, voilà, la réalité, on la résume assez simplement en disant, voilà, on est dans une société marchande où le logement est devenu un bien marchand comme un autre, qui permet à ceux qui ont déjà de l'argent de s'enrichir encore plus, ne permet plus à ceux qui n'ont pas d'argent de vivre normalement, parce que la réalité, c'est qu'on est tellement dans une crise du logement exacerbée que des gens, enfin, les classes les plus populaires, sont contraints de louer des logements pourris, sont contraints de payer des loyers exorbitants pour des trucs pourris, et les propriétaires sont... on est dans un rapport de force où le propriétaire est clairement à son avantage, où le locataire est subi. Le locataire n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, le locataire a besoin d'un toit, il ne peut pas accéder à la propriété parce que c'est trop cher et c'est pas abordable. Donc il doit avoir un logement et donc il est soumis au propriétaire qui fait ce qu'il veut, quoi. Il décide de qui est-ce qu'il prend, il décide du moyen de chauffage qu'il va mettre, alors que c'est le locataire qui va payer, il décide d'aller en dehors de la loi en disant « Tiens, la loi dit que c'est un mois de caution, mais moi je vais en demander trois, et de toute façon si t'es pas content, je trouverai quelqu'un d'autre. » Voilà, le marché fait que le propriétaire est en position de force, et ça, sur les 20 dernières années, ça n'a pas changé, et... sur les 30 dernières années, ça n'a pas changé. Il y a une crise du logement depuis des années et des années. Tant qu'il y aura une crise du logement et tant qu'on partira du principe que le logement est un bien marchand comme un autre, le locataire sera en position inférieure par rapport au propriétaire. Et c'est l'objet de notre travail, c'est d'essayer de rééquilibrer ce rapport de force, si on peut l'inverser, mais il ne faut pas se leurrer non plus, hein. Les volontés politiques ne sont pas celles-ci, donc on n'est qu'une petite association avec peu de prétentions. En tout cas, on essaye de le faire, on essaye d'inverser ce rapport de force qui est injuste. Hein.
Ok. Bon, je sais pas, ça m'a pas mal déjà, non?
Ouais, je sais pas, je dis plein de trucs, je fais à chaque fois des longues phrases.